Vous savez, Mathieu Delormeau, c'est l'animateur, le chroniqueur, vous l'avez pu le voir notamment chez Cyril Hanouna. Tout est parti du fait que le Premier ministre veut tester ceux qui travaillent dans les ministères et faire du dépistage de stupéfiants. Aujourd'hui, pour le consommateur, l'amende est de 500 euros. Mathieu Delormeau est resté longtemps dans l'addiction, cocaïne, drogue de synthèse. Il s'en est sorti. Il rappelle d'ailleurs dans le livre, il l'avait dit ici sur RMC dans les GG, que ce sont des médecins qui l'ont initié. D'ailleurs, en disant, tu vas voir, tu vas kiffer, tu vas t'amuser, ça va être bien. Pour des plans à trois. Et derrière, il est tombé là-dedans, Mathieu Delormeau, mais il dit, mais peut-être que si j'avais eu peur de la sanction, j'aurais été davantage conscient. Écoutez-le.
Maintenant, le seul moyen de diminuer la consommation de drogue, et je rappelle qu'aujourd'hui, la consommation de drogue, elle a fait 100% entre 2022 et 2026, c'est de s'attaquer aux consommateurs. Quand il n'y aura plus de consommateurs, quand il n'y aura plus d'offres, il n'y aura plus de demande. Il faut une répression très très forte, il faut faire peur aux consommateurs. Ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait des licenciements, éventuellement, il faut qu'il y ait des pertes d'emplois, il faut qu'il y ait vraiment un arbitrage dans votre vie qui fasse que, oui, vous vous faites soigner. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux que ce soit partout, mais partout. Moi, un seul exemple, le mien. Moi, si j'avais dû choisir entre le travail et la drogue, j'aurais pris le travail.
Voilà, il faut qu'on ait peur. Est-ce qu'il a raison, Mathieu Delormeau? Il faut être plus sévère avec le consommateur. 32-16 pour le dire. Alors c'est vrai, normalement l'amende aurait dû passer à 500 euros, l'amende forfaitaire. Elle était à 200, elle était à 500. C'est la proposition de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça a été voté ou pas?
Je crois que c'est encore en cours et il me semble même que ça sera débattu courant octobre. Et en tout cas, l'amende forfaitaire délictuelle aujourd'hui, elle est toujours de
200 euros. Alors, est-ce qu'il faut être davantage plus sérieux avec le consommateur? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Jean-Loup Bonamy?
Eh bien,
deux remarques.
Non, justement.
La méthode salvadorienne.
Voilà. Zéro remarque plutôt, parce que.
Et les envoyants en Albanie.
Je ne sais pas. Ah, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je me pose la question et que je n'arrive pas à avoir une réponse et un avis sur le sujet. Donc vraiment les propos de Mathieu Delormeau.
Tu ne consommes pas toi-même.
Non, je ne consomme pas moi-même. Et
j'aime le scoop.
Et donc, eh bien, je n'arrive pas à me faire un avis.
Je ne sais pas si la sévérité va dissuader.
Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que je constate que ça touche énormément de milieux. Parce que dans les années 80, c'était l'explosion du trafic de cocaïne, Scarface, et ça se voit, c'était dans des milieux privilégiés. La finance, notamment. Le show business, un certain nombre de milieux. Tu vois qu'aujourd'hui, c'est resté dans ces milieux, mais ça s'est étendu. Justement, Mathieu Delormeau le dit, les médecins, c'est une partie des médecins qui, pour tenir le coup, les horaires et tout, consomment notamment de la cocaïne. Tu vois, chez les cadres de province, ça c'est un phénomène, ce n'était pas le cas dans les années 80, aujourd'hui, c'est le cas. Chez les marins-pêcheurs, nous dit-on, on avait des témoignages de gens à la RATP. Donc tu vois, dans la restauration, tu vois que ça s'est étendu, ça a gagné beaucoup la cocaïne notamment, dans énormément de milieux. Et donc je ne sais pas, c'est évident que la question du consommateur est une question centrale, il n'y aurait pas de consommateur, il n'y aurait pas de trafic. Est-ce que la sévérité contre les consommateurs marche? Eh bien, je ne sais pas, je n'arrive pas à me faire un avis.
La question qui est posée là, c'est drogue, faut-il licencier les consommateurs? Moi, je pense que oui. Et je trouve que ça serait une mesure qui serait même préventive, parce que du coup, tu aurais la peur de perdre ton emploi, donc la peur de perdre ton salaire, donc la peur de perdre ton toit, la peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement un fléau que pour moi, et encore plus pour les membres du gouvernement où il y a un devoir d'exemplarité, tu dois pouvoir constater que ton salarié ne soit pas en état de...
Est-ce que tu pourrais dépister dans ton cabinet ou pas?
Ah oui, moi ça me poserait aucun problème. Si c'était autorisé, oui, je le ferais.
Alors là, j'ai deux remarques.
Ouais. Non, monsieur.
Parce que franchement, comment tu peux être efficace si... Là,
je te dis ça, pardon, je t'interromps parce qu'il y a un magistrat à Bobigny,
oui,
tu as vu.
Oui, oui, un procureur
qui a été suspendu.
Il a été rétrogradé.
Il consommait de la cocaïne, des drogues de synthèse, du chemsex.
18 000 euros dans la poche des dealers.
Et donc, il y a eu quoi? Il y a eu des conséquences sur l'efficacité de son travail, sur le fait que les réunions de travail, quand il arrivait, c'était toujours en retard, qu'il n'examinait pas correctement ses dossiers, donc forcément, tu vois, donc ça a des conséquences sur ton travail. Donc à un moment donné, je pense que oui, il est nécessaire de pouvoir leur dire attention, si je détecte que vous avez consommé de la drogue, eh bien la conséquence immédiate serait le licenciement.
Mais alors deux remarques. Un, imaginons que ça marche. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Imaginons que ça marche, faut pas croire que il y aurait pas de conséquences et que les gens ne se reporteraient pas sur autre chose. On verrait apparaître d'autres phénomènes de compensation. Hein.
Faut,
Et deuxièmement, imagine, t'as un collègue. Alors, un collègue sympa, avec lequel tu t'entends bien, et en plus, qui fait bien son travail, qui fait efficacement son travail. Et il est testé positif. Et on se rend compte que bah, ça n'a pas eu d'impact négatif sur sur son travail, contrairement à ce magistrat. Est-ce que ce collègue, est-ce que là, tu le vires ?
Alors, la première fois, tu lui fais un rappel à la loi. Et ensuite de quoi ? Si tu y as une autre détection et qu'à ce moment-là, il est encore positif, bon, ben là, au bout d'un moment...
Que c'est aussi une addiction, hein, les gens.
Oui, c'est une addiction, mais tu sais qu'il y a... Enfin, sauf si à un moment, il en sort. S'il en sort pas, ça va...
Alors, et c'est vrai qu'au niveau...
Il y a toujours... un passage où ça se détériore.
Est-ce que si tu veux le sujet, on peut sortir de
l'hypocrisie. Tu peux pas le laisser comme ça, quoi. Donc tu l'encourages à se soigner, si tu veux, mais tu le mets en garde ou tu le suspends.
Voilà, rappel à la loi, mais
parce que ça dégénère à un moment.
Je me demande quelle drogue consomme Olivier Truchot, parce que vu les thèses farfelues qu'il défend
sur l'Europe,
par exemple, qu'il défend souvent sur ce plateau.
Une incitation comme quoi il se drogue.
Mais c'est pas bio.
Juste au niveau du constat, faut faire attention, parce que quand tu vas vouloir détecter le fait que tu prennes du cannabis ou de la cocaïne, ça peut être détecté, par exemple, pour le cannabis, ça peut être détecté jusqu'à 8 jours après ta consommation. Et pour la cocaïne, ça peut aller jusqu'à 14 jours. Donc bon.
Alors, Abel, je te donne la parole dans un instant, parce qu'il y a Thibault qui est secrétaire général d'une association dans le Tarn-et-Garonne qui veut réagir. Bonjour Thibault.
Bonjour, grande gueule, comment allez-vous?
Salut Thibault. Est-ce qu'il faut être plus sévère avec les consommateurs, voire les licencier de leur boulot? Dites-moi.
Bah, moi, je trouve que c'est un aveu d'échec. Je pense que si on compte le nombre de consommateurs en. Elle est énorme, alors que le nombre de vendeurs, il est certainement moins énorme. Et puis, il faut quand même se rappeler que quand on consomme, c'est un problème d'addictologie, c'est un problème de santé. Alors, le mec, il est consommateur. On va lui virer son boulot, on va lui payer des amendes. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va consommer dans la rue, il va se mettre à dealer pour pouvoir payer sa conso. Donc, du coup, finalement, le problème, on le prend pas mal. Quand on est malade, on peut pas sanctionner les gens. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent ne plus être addicts de toutes ces drogues.
Oui, mais le licenciement, ce serait la conséquence. Au final, il y aurait d'abord eu des rappels à la loi, des injonctions de se soigner.
Est-ce que ça prend le. Il faut que ce soit accompagné d'injonctions de se soigner parce que ça ne règle pas le problème.
Vous avez consommé plus jeune, vous?
Bah, ça m'est arrivé comme beaucoup de jeunes.
Qu'est-ce que vous avez consommé?
Des drogues douces type cannabis. Quand on est jeune, au lycée, on fait des jeunes.
Et vous vous êtes arrêté?
Comment?
Vous vous êtes arrêté après?
Oui, voilà, puis c'était occasionnel. Donc moi, c'était pas un problème, si vous voulez. Après, le consommateur qui est pris en flagrant délit dans la rue, bien sûr qu'il faut le sanctionner parce qu'il peut pas. Mais après, il faut quand même se rendre compte que c'est un aveu d'échec de nos politiques publiques par rapport à tous ces trafiquants de drogue. Je pense quand même que on connaît l'endroit où ils sont, on sait comment les drogues elles arrivent en France. C'est juste voilà, il faut de la volonté aussi un peu plus forte politique pour pouvoir éradiquer ça. C'est pas le pauvre consommateur qui est malade, qui va perdre son travail, qui va devoir payer des amendes énormes. Et puis je connais pas ce Mathieu Lormeau, il s'achète une conscience.
C'est possible. Tous les repentis, une fois qu'ils ont arrêté, sont encore plus sévères, bien sûr.
Mais
sauf qu'il peut témoigner. Il a dit lui-même, ça lui a coûté une partie de sa vie, ça lui a coûté son cercle d'amis. Il aurait peut-être pu continuer sa carrière, mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il en parle en connaissance de cause. Écoutez ce qu'il disait aussi à propos de ce qui se passait chez lui dans ses soirées.
Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC. Il y avait des hommes politiques, évidemment.
Et qui prenaient
de la cocaïne, de la 3MMC, des gens très connus.
Qui pèsent dans le pays.
Ah oui, bien sûr.
Fait la loi, qui sont au pouvoir.
Bien sûr.
Monsieur Abel Bouilly.
Mais tu sais ce qu'il... T'aurais dû insister pour avoir les noms, là.
Mais tu sais ce qu'il dit, de toutes les manières. Ce qu'il dit, c'est un secret de polichinelle, en réalité, on le sait tous. Moi-même, dans le cas de l'accompagnement de filles qui sortent des réseaux de prostitution des mineurs, elles me disent que parmi les clients, elles ont eu des gens très connus, très puissants. Mais monsieur Le Cornu, autant sa mesure peut être intéressante, mais il aurait dû aller au bout et expliquer ce qui s'est passé dans son cabinet.
L'information c'est notoriété publique.
Michel Stumboff, qui était son conseiller chargé de l'agriculture, qui a fait une overdose fin décembre dans une soirée chemsex, tellement déchirée, ce sont les pompiers qui sont venus le chercher. Et puis j'ai creusé un peu, tu sais par qui était organisée cette soirée chemsex? Par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, Hugues Bié-Charenton. C'était chez lui, en fait, qui lui-même était défoncé. Alors, le gars du cabinet de Le Cornu, il s'est fait virer, mais monsieur Charenton, il a été recasé à Bercy. C'est un mec qui touche 21 000 euros par mois avec nos impôts. Donc, faudrait que Le Cornu puisse être, comment?
Il s'en est peut-être sorti.
Mais non, mais pourquoi l'autre a été viré et l'autre a été recasé déjà? Ça a été traité de deux manières différentes. Deuxièmement, l'hypocrisie, elle est où? Le marché du trafic de stupes, c'est 7 à 8 milliards. Ça veut dire qu'on a déjà perdu le combat, en réalité. On a perdu le combat. Il y a tellement de drogues, il y a tellement de possibilités de se reconvertir dans d'autres consommations. Et maintenant, tu prends le test salivaire. Il faut savoir qu'en ce qui concerne les opioïdes et les hallucinogènes, ils sont pas tous détectables par la salive, il faut des prises de sang. Donc on va pas au bout de la chose. C'est une hypocrisie pour se dire allez, on va agir, mais ça ne va rien changer du tout en réalité.
Sauf ça a peut-être dissuadé. Moi, je crois pas.
Une personne addict ne va pas être dissuadée de ne pas consommer.
Mais alors regarde, Mathieu Delormeau, il était addict, il a pris conscience de son problème
quand
et il s'en
a
est
tout
sorti.
Perdu. Non, il a pris conscience quand il a tout perdu. Sa vie professionnelle, il a perdu tous ses amis, ouais. Il a témoigné, il est resté un an et demi chez lui sans sortir. Oui, c'est quand il s'est cassé la figure.
En pleine crise de parano, parce qu'il avait poussé l'addiction et la consommation le plus loin possible. Mais dans ton milieu, celui des avocats, c'est un fléau.
Bien sûr, c'est une réalité. Hein. Je ne suis pas en train de vous donner un scoop. Non, c'est une réalité.
Parce que alors nous,
on nous dit en tant qu'avocat, oui, alors il y a beaucoup de confrères qui en prennent. Pourquoi? Parce que donc du coup, tu as un sentiment de surpuissance, parce que tu veux aussi à un moment donné t'enlever une espèce de charge mentale, puisqu'on a des délais à respecter en permanence, et sinon c'est notre responsabilité professionnelle qui peut être en jeu. Donc du coup, tu veux à un moment donné pouvoir te délester et souffler, et puis même... tu es soi-disant meilleur quand tu es en train de plaider sous stupéfiant. Moi, j'en ai jamais pris. Mais oui, c'est un fléau. Et je pense qu'on pourrait même faire ça aussi, tu vois. Limite, j'exagère, mais bon, avec l'ordre des avocats, de faire en sorte qu'il y ait un test qui soit produit, un résultat sanguin tous les six mois, qui soit donné à l'ordre.
Ça peut fausser aussi le travail de ces avocats qui se disent moi je défends des caïds parce que derrière ils me
je rachète
ils peuvent être complices aussi
c'est évident que ça existe, c'est sûr.
Je vais te poser une question alors qui ne va pas te plaire
non mais vas-y dis-moi dans ton milieu ou
non
parce qu'Olivier Truchant moi il a peut-être une addiction au Chablis Olivier peut-être
mais est-ce que tout ça n'a pas un rapport quand même dans les sociétés occidentales avec la déchristianisation parce que les gens ne prennent pas de la drogue depuis qu'ils n'ont plus de Dieu.
Non, je pense pas, non.
Ah bon?
Non.
Le vieil anticlérical que tu es.
Non, écoute, parce que je pense que malheureusement, tu parlais tout à l'heure de la violence. Je pense que la prise de stupéfiants est depuis que la civilisation existe, les dérivatifs. Enfin, c'est toi qui es philosophe, anthropologue, tu connais ça. Les dérivatifs, malheureusement, ça a toujours existé.
Je pense que la religion, c'est
la religion, c'était l'opium du peuple, comme le disait Marx.
Voilà. Donc besoin de moins d'autres types d'opium.
Moi, j'ai travaillé 10 ans en boîte de nuit, moi, pour payer mes études.
T'étais videuse?
Non, j'étais barmaid. Je ne voulais pas être en contact avec les gens, donc il fallait qu'il y ait la distance avec le bar. Et je voyais, parce que pendant 10 ans, j'ai fait toutes les boîtes de nuit de Paris, j'ai fait le VIP, le Régine, le Queen, etc. Et donc, c'était propice à ce qu'il y ait quand même des gens célèbres et des gens aussi de la classe politique. Je ne vais pas vous mentir, oui, je savais pertinemment qu'il y avait des gens qui consommaient.
Faut-il licencier les consommateurs, être plus sévère avec les consommateurs? Et je remercie Thibaut d'avoir été avec nous. Oui, vous dites à 65%.